question.
J'avais sur mon cœur un message pour vous, et durant le culte, le Seigneur m'a donné une autre parole. Et cette parole me semble correspondre à l'esprit qui se manifestait dans le culte. Et je veux être assez souple dans la main du Seigneur pour simplement que nous continuions ce qui nous a été souligné dans ce culte. Notre frère a lu dans le chapitre 51-52 d'Ésaïe le verset 6e, et il nous a dit que il l'avait reçu dans la semaine qui vient de s'écouler comme si le Seigneur lui avait parlé à lui directement. Je relis ce texte, chapitre 52, verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. On a dit que ce jour du 13 mai était le jour de la fête des mères. Ma femme n'aime pas beaucoup cette expression, le jour de la fête des mères, parce qu'elle dit, et je crois qu'elle le dit avec raison, que les enfants devraient considérer tous les jours comme étant la fête des mères. C'est tous les jours qu'il faut honorer sa mère. C'est tous les jours qu'il faut lui obéir et lui manifester notre amour. Parce que le grand danger avec ces fêtes instituées par le monde, c'est de commercialiser qui devrait être quelque chose d'habituel. Et dans son bureau, dans son cabinet, ma femme souffre beaucoup, comme médecin, d'entendre des femmes dire que leurs enfants viennent les voir qu'une fois par année, la fête des mères. Ça, on peut pas oublier. Peut-être que c'est une bonne chose qu'il y ait au moins une fois par année des enfants qui viennent voir leur maman. Mais je crois que quand on est né de nouveau, comme l'a souligné Josapha, et qu'on se souvient de notre mère qui nous a donné le jour, bien, on aime à témoigner à notre mère les sentiments de notre cœur, ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Car quand on est né de nouveau, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est plus nous qui vivons avec notre égoïsme, avec notre esprit oublieux, mais c'est Jésus qui vit en nous. Et c'est lui qui imprègne toute notre existence, des sentiments qui étaient dans son cœur. Et vous savez ce que Jésus a été, et pour son Père céleste, mais aussi ce qu'il a été pour ses parents terrestres, sa mère et Joseph, qui était connu comme son père, c'est-à-dire celui qui était chargé de cette éducation, de cet enfant qui n'avait pas été conçu à la manière des autres hommes, mais réellement conçu du Saint-Esprit. Mais il fallait pourtant un père. Eh bien, Jésus, en tant qu'enfant, il est dit qu'il était soumis à ses parents et qu'il obéissait et qu'il grandissait en faveur devant Dieu et devant les hommes. Ce 13 mai, oui, a été arrêté comme étant la fête des mères, mais je voudrais vous faire remarquer que ce 13 mai, c'est le 21e jour après l'Ascension. Le 21e jour après Pâques. Et le 19e jour avant l'Ascension. Nous sommes donc dans cette période de 40 jours où Jésus ressuscité a été vu par ses disciples, leur a donné toutes les preuves assurées de la réalité de sa résurrection et leur a donné aussi ses derniers ordres avant de retourner dans la gloire. Et nous aurons l'occasion de vous parler de ce sujet, Dieu voulant, dans cette fin de semaine, que je voudrais que ceux qui y participeront au camp Siderloge la conçoivent, cette fin de semaine, non pas comme une corvée, mais comme un service volontaire. Un service que vous accomplirez avec joie, même si certaines femmes doivent laisser partir leur mari, elles seront à l'arrière pour prier pour eux. Et les autres qui pourront venir aussi, les femmes, nos sœurs, servir, trouveront en effet toute une occupation à la gloire, certainement du Seigneur. Parce que travailler en vue du bien des autres, en vue de ce camp de famille, en vue des autres camps qui se réuniront à Siderloge, c'est travailler vraiment pour le Seigneur. Alors que ce soit vraiment un service volontaire et un service fait avec joie. Et nous sommes heureux vraiment de savoir que le Seigneur a pourvu à tout, car s'il nous demande une tâche matérielle, il subvient aussi à nos besoins, qu'ils soient physiques et qu'ils soient spirituels. Bien, nous espérons que cette fin de semaine sera une fin de semaine où il n'y aura pas seulement de la sueur qui tombera de vos fronts, mais où il y aura aussi une rosée spirituelle, une rosée de bénédiction, vous renouvelant, vous qui avez voulu donner au Seigneur ce temps. Maintenant, mes bien-aimés, je reviens à ce verset qui nous a été lu. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Est-ce que nous connaissons le nom du Seigneur? Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom que voulait connaître Jacob quand il luttait avec l'ange et qu'il s'est senti soudainement vaincu et qu'il s'accroche à l'ange quand sa hanche est déboîtée, lui qui avait mis tous ses efforts pour vaincre cet homme inconnu qu'il croyait être un ennemi, tout à coup quand il voit qu'il n'aura pas le dessus, au lieu de continuer de lutter et de le considérer comme un ennemi, il s'accroche à lui et puis il lui dit « Je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. » Au lieu de le prendre comme ennemi, il le prend maintenant comme son secours. Et c'est ce qui doit nous arriver. La plupart du temps, quand nous avons des luttes, des combats, nous y allons, nous voulons vaincre nous-mêmes nos difficultés, et puis nous nous épuisons. Et puis, il arrive un moment où, réellement, nous n'en pouvons plus, et c'est à ce moment-là qu'au lieu de lutter contre les circonstances qui veut dire souvent lutter contre Dieu, on s'attend à Dieu. Et nous avons à ce moment-là la délivrance. La délivrance chez Jacob, il l'a eue immédiatement au moment où il a cessé de lutter, où il s'est approché à celui qu'il croyait être son ennemi. Et il demande, quel est ton nom? Quel est ton nom? Il n'a pas reçu la réponse. Pourquoi demandes-tu mon nom? Pourquoi demandes-tu mon nom? Je laisse là dans le chapitre 32 du livre de la Genèse, pour ceux qui voudraient méditer sur ce passage. Jacob désirait connaître le nom de celui avec lequel il avait lutté. Pourquoi demandes-tu mon nom? Il n'a pas la révélation encore. Mais il a la bénédiction. Et il a dit, et il le bénit là. Et il le bénit là. Jacob appela, verset 30, ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Et désormais, Jacob, boitant, continuera sa course. Mais sa vie est transformée. Du reste, Dieu lui a donné à lui un autre nom. Tu ne seras plus Jacob le supplanteur, mais tu seras appelé Israël le vainqueur de Dieu. Mes amis, comment est-ce qu'on a la victoire dans notre vie? Ce n'est pas en luttant par nos propres forces, vous vous épuisez, c'est en vous abandonnant. Oh, que ce 13 mai soit le jour où vous vous abandonnez, le jour où vous commencez à connaître son nom. Voici, mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Jacob a compris, même s'il n'a pas encore la révélation de ce nom, il a compris que c'était Dieu. Parce qu'il dit, j'ai vu Dieu, face à face. Et mon âme a été délivrée. J'ai vu Dieu face à face. Voulez-vous voir Dieu face à face? Vous ne connaîtrez pas tout. Mais votre âme sera délivrée. Puis on pourrait continuer dans cette même veine en vous rappelant des êtres qui ont demandé à connaître le nom du Seigneur qui leur apparaissait, je pense, à Manoah et à sa femme, une mère justement, qui sera la mère de Samson. Et quand, dans le livre des Juges, au chapitre 13, Manoah apprend que sa femme a été visitée par un être céleste qui lui a dit, tu seras enceinte, tu auras un fils, Manoah prie pour que cet être qui est venu visiter sa femme en revienne, afin que cet ange puisse leur dire, leur enseigner comment ils devaient élever cet enfant, parce que la femme de Manoah avait reçu cette promesse, tu auras un enfant, tu auras un enfant. Et Manoah accepte. Mais comment élever cet enfant? Eh bien, on prie. Et puis voilà que Dieu répond. Et l'ange du Seigneur revient une seconde fois. Et leur indique ce qu'ils auront à faire pour cet enfant qui vient de Dieu. Et tout à coup, Manoah s'écrie, quel est ton nom? Et vous savez la réponse. Pourquoi je n'enlis mon nom? Et là, il y a une chose de plus que chez Jacob. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Ah, si vous désirez connaître son nom, eh bien, vous apprendrez à connaître qu'il est merveilleux. Et voyez-vous, le Seigneur n'a qu'un désir, c'est de se révéler à nos âmes. Et je demande que ce 13 mai soit une date pour vous, définitive, non pas seulement la fête des mères, mais le jour de votre décision réelle dans votre cœur pour le Seigneur Jésus, et que tout le reste soit balayé pour que vous puissiez faire la volonté du Seigneur. C'est pourquoi il saura en ce jour, oui, en ce jour, 13 mai, il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Vous êtes peut-être venu parce que, oui, un prédicateur qui vous visite. Non, je sais bien que ce n'est pas venu pour cela. Je l'ai entendu ce matin. Vous n'êtes pas venu pour écouter un homme. Vous êtes venu pour vous souvenir du nom du Seigneur. Ce nom qui est au-dessus de tout nom, et devant lequel un jour se ploiera tout genou des êtres célestes, terrestres et infernaux, toute langue confessant que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous êtes venu pour vous souvenir du Seigneur Jésus, comme cela a été dit dans les prières pour annoncer sa mort, mais aussi pour vous souvenir que ce Seigneur mort le vendredi saint est un Seigneur vivant. Il est vivant. Le matin de Pâques, la grande pierre scellée a été roulée et Jésus est sorti vivant de la mort. Et il a donné toutes les preuves assurées de sa résurrection. Il a vécu 40 jours avec ses disciples. Ce sont des faits historiques et nous allons maintenant, dans 19 jours, nous rappeler de l'ascension qui est un fait historique. Jésus, dans son corps de résurrection, son corps déjà glorifié, a été vu montant dans le ciel, où son chariot l'attendait. Quel chariot? Il a un char, psaume 104, lisez ce psaume. Un char l'attendait, et quel est ce char? Le char du Seigneur, que vous retrouvez à travers toute la Bible. Verset 3, du psaume 104, il forme avec les eaux le faîte de sa demeure, il prend les nuées pour son char. Il prend les nuées pour son char. Et ce jour de l'ascension, quand les disciples regardaient le Seigneur s'en aller, qu'est-ce qu'il a dit? Une nuée le reçut. Le char de l'Éternel était là pour le transporter dans cette gloire d'où il était venu, d'où il était descendu. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Alors, à ce texte que notre frère a lu, je voudrais en lier quelques autres afin que vous ayez une nourriture spirituelle bien profonde dans la semaine. Chapitre 58 d'Ésaïe. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice
et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ah, il y a de l'intérêt. Il y a une foule de gens qui voudraient bien entendre parler du Seigneur. On viendra à des réunions d'évangélisation, certainement on viendra dans cette campagne qui se prépare. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Je souhaite qu'il y ait beaucoup de monde dans cette campagne. Il y en a certainement même qui jeûnent et qui disent, mais au fond, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas toute la bénédiction que l'on voudrait? Le Seigneur répond, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Est-ce que ce n'est pas encore un peu comme cela que nous agissons? Nous voulons faire des réunions, nous voulons agrandir nos églises, mais le Seigneur a quelque chose à nous dire. Le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. C'est pas moi qui parle, hein. Le Seigneur a dit ce matin, me voici en ce jour-là. C'est pourquoi en ce jour-là, il saura que c'est moi qui parle. Me voici. Je reviens au verset 4. Vous traitez durement vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer, pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut, parce que vous devriez avoir une réponse à vos prières. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Et écoutez ce qu'il vous dit. C'est lui qui parle. Vous voulez que quelque chose change? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompt toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, vous voyez que les pensées de Dieu ne sont pas toujours nos pensées. Nous, on pense que jeûner pour prendre certaines attitudes. Ce que Dieu veut, c'est un cœur qui lui appartienne. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra, tu crieras, et il dira, me voici. C'était là que je voulais en venir, mais je voulais laisser ces versets dans le contexte. Tu crieras, et il dira, du côté de Dieu, il n'y a pas d'obstacle. C'est toujours de notre côté. Mais si nous prenons Dieu au sérieux, et si nous lui disons, Seigneur, nous allons nous laisser faire par toi, fais avec nous ce que tu veux, dispose de nous, eh bien vous verrez la main du Seigneur opérer. En ce jour-là, tu sauras que c'est moi qui parle, et qui te dis, me voici, bien oui. Ici, dans le chapitre 58, le « me voici » est donné à ceux qui ont compris ce qu'est un vrai jeûne. Ne plus se livrer à nos propres penchants. Qu'est-ce qui nous retient encore? Nous avons encore trop de force. Nous pensons que nous pouvons encore lutter. Nous sommes des Jacob qui ne sont pas encore épuisés. Alors est-ce qu'il faudra que notre hanche soit luxée pour que tout à coup, nous sentant défaillir, nous nous accrochions à lui? Seigneur, quel est ton nom? Et il le bénit là. Est-ce qu'il faut, pour que nous ayons la bénédiction des bénédictions qu'il voudrait nous donner, que nous ayons une grande épreuve? Que le Seigneur nous enfante. Mais je voudrais souligner ceci. C'est que si le Seigneur est prêt à vous dire « me voici », il voudrait que vous aussi, vous soyez prêts à lui répondre « me voici ». Du côté de Dieu, pas d'obstacle. Il vous dit « me voici ». Maintenant, je prends, et vous méditerez vous-même, je vous cite simplement quelques hommes qui ont été visités par Dieu. Vous voudriez être visité par Dieu. Il peut nous visiter à tout âge. Vous connaissez quand même la parole. Souvenez-vous d'Abraham. Abraham, qui a vécu assez longtemps, 175 ans. Et un jour, Dieu a parlé à cet Abraham. Dieu avait parlé déjà plusieurs fois au cours de son existence. Il avait 75 ans quand Dieu, pour la première fois, lui a parlé. Je ne sais pas quel âge vous avez. Mais Abraham, lui, il était parmi les païens. Il avait 75 ans. Il était marié. Il n'avait pas d'enfant. Il avait un neveu qui avait perdu son père. Il avait 75 ans. Et tout à coup, Dieu lui parle. Sors de ton pays, de ta parenté, pour aller dans le pays que je te montrerai. Et Abraham obéit. Et il va, ne sachant trop où il allait. Mais étape par étape, il poursuit sa route et le Seigneur est toujours là, jamais en retard. Et le Seigneur continue à lui apparaître. Puis lui fait même une promesse. Il lui dit qu'il aurait un fils. C'est un peu tard à 75 ans. Et puis même ce fils, il ne viendra qu'à quel moment? Quand il aura 100 ans. Ils devront se rattendre 25 ans. Et quand il aura 100 ans et que sa femme en a 90, alors le fils vient. Eh bien, il a encore 75 ans à vivre avec son fils, c'est quelque chose. Alors le fils a grandi. Et je pense que le fils pouvait avoir 17, 18 ans. Quand tout à coup, Dieu, une certaine nuit, lui parle de nouveau. Abraham, Abraham. Et qu'est-ce qu'il dit? Nous voici. Oh, on aime bien que Dieu nous parle. Hein? Nous voici. Chapitre 22 de la Genèse. Nous voici. Bien. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va le sacrifier sur la montagne de Morija, qui est à 3 jours de là. Il habitait Beersheba. Nous voudrions que Dieu nous parle, mais attention, qu'est-ce qu'il peut nous demander? Abraham a répondu, me voici. Et Abraham a obéi, et ne pensez pas que c'est un petit enfant. Quelle est la preuve que j'ai que ce n'était pas un petit enfant? C'était déjà un adolescent, et même peut-être un jeune homme. Et il lui charge, il lui met le bois sur lui. Donc ce n'est pas un bébé qui peut porter du bois, c'est pas un petit enfant qu'on charge de tout le bois de l'Holocauste. C'est déjà un costaud. C'est déjà un gars qui peut comprendre, et même il comprend tellement qu'il dit à son père, écoute, et c'est tellement beau ça, hein, il parle avec son père, ils vont ensemble, puis il dit, tu as le, il y a le bois, il y a le couteau, il y a le feu, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Isaac ne sait pas que c'est lui qui sera offert. Où est l'agneau? Et dans ces 3 jours de marche de Beersheba au mont Morija à Jérusalem, Abraham prie. Abraham ne comprend pas les voies de Dieu. Mais pourquoi? J'ai attendu jusqu'à 100 ans pour être exaucé. C'est Dieu qui m'a donné cet enfant. C'est Dieu qui me dit que en lui toutes les nations de la terre seraient bénies dans la postérité de cet Isaac. Puis maintenant il me le demande. Ah, l'épreuve de la foi. Quand on veut marcher avec Dieu, quand on veut vraiment l'écouter, quand on veut vraiment l'entendre, il y aura des épreuves. Mais il y aura des délivrances proportionnées à ces épreuves. Tout à coup, au moment où il a pu convaincre Isaac qui aurait pu se battre avec son père, mais qui se laisse faire, voilà un Isaac aussi, qui, malgré qu'il voit dans le regard de son père une détresse immense, eh bien, comprend que son père doit faire la volonté de Dieu. Dieu lui a dit cela, et Isaac se laisse lier sur l'autel. Folie, direz-vous. Il se laisse lier, il n'y a pas de combat entre le père et le fils. Il est là sur l'autel. Puis Abraham lève le bras, et c'est le bras de l'Éternel qui l'arrête. Abraham, Abraham, voici. Et me voici, là, tout près. Voici. Je connais maintenant. Tu ne m'as pas refusé, ton fils. Puis il se retourne, et qu'est-ce qu'il voit? Dans un buisson, un agneau est là, retenu par les cornes. Et tout à coup, lui qui avait dit, le Seigneur se pourvoira de l'agneau. Est-ce qu'il y croyait? Il n'avait pas eu la vision du buisson. Il ne savait pas. La foi, ce n'est pas la vue. On marche dans la foi. Comment est-ce que Dieu va s'y prendre? Eh bien, il était convaincu quand même que Dieu s'y prendrait d'une façon ou d'une autre. Il ne savait pas comment.